Ici Psycho Balado avec Yves Dalpé. Nous sommes un beau vendredi ensoleillé du 21 avril 2023. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'infidélité, comment bien gérer la découverte d'une infidélité. Alors, on se rappelle que je suis en train de lire le dernier livre que j'ai coécrit avec Joanne Côté, dont le titre est « La gentillesse dans le couple ». Alors, j'y vais de ce pas. Le titre de ce chapitre est « Bien gérer la découverte d'une infidélité ». Comment réagir de la bonne manière quand une infidélité est découverte? Des couples se défont sur le champ, ce qui est malheureux. En effet, il faut d'abord découvrir le sens de cette infidélité pour réagir adéquatement. Parfois, des couples en ressortent plus forts qu'avant. Il n'est pas vrai qu'un vase cassé ne se répare pas. Si les craques du vase sont solidifiées avec de l'or, nous aurons maintenant un objet d'art plus solide et plus esthétique, n'est-ce pas? Souvent, dans un premier temps, pour s'empêcher d'affronter leurs vrais problèmes conjugaux sous-jacents à l'infidélité, les deux conjoints font une sorte de marchandage inconscient. Le conjoint trompé sombre dans l'obsession en se concentrant sur les détails des circonstances de l'infidélité et en accablant le conjoint infidèle de blâme. Tandis que l'infidèle se montre extrêmement repentant, aimable et supportant, tout en fuyant le plus possible les interrogatoires. Malheureusement, de cette façon, le couple continue à vivre comme avant, sans parler de ses difficultés relationnelles. Cette alliance inconsciente dans la fuite peut être fatale pour le couple. Les deux conjoints s'empêcheront ainsi de tirer des leçons essentielles de cette crise, ce qui pourrait les amener à la séparation. Une fois la relation extra-conjugale mise à jour, il faut absolument, au contraire, en explorer les raisons. On comprend aisément la souffrance de la personne trompée, mais sa réaction obsessionnelle n'en devient pas moins son pire ennemi si elle ne parvient pas à sortir de cet état d'esprit, car son mariage s'en trouverait compromis. La meilleure stratégie pour contrecarrer cette phase improductive de l'obsession, c'est de concevoir l'infidélité comme le symptôme d'un problème conjugal commun. Sans une définition commune du problème, il n'y aura pas de solution commune. Mais cette perspective soulève facilement l'indignation de la personne trompée. Comment, entend-on en entrevue, tu as osé me trahir et ce serait ma faute à moi, point d'exclamation? Cette réaction est naturelle et compréhensible. Néanmoins, elle doit être surpassée. Le conjoint trompé doit avoir le courage d'entendre la version de l'infidèle et d'évaluer s'il y est pour quelque chose dans le comportement choquant de son conjoint. Parfois, l'infidèle n'a pas osé verbaliser ses frustrations et l'amertume s'est accumulée secrètement en lui au fil du temps. Il a compensé par de l'infidélité. Parfois, le climat de dispute entre les deux conjoints est trop négatif. Il s'ensuit un désir de se consoler ailleurs et parfois de se venger ainsi. D'autres fois, une conjointe découvre qu'elle est amoureuse d'un homme insatiable sur le plan sexuel et amoureux. Il n'a jamais été fidèle dans sa vie et ne le sera jamais, même s'il tient à elle. Dans d'autres cas, le conjoint infidèle considère son lien conjugal comme vide émotionnellement. Cette union est axée plutôt sur la gestion de la famille, avec la hantise de déplaire à la conjointe et aux enfants. Cet infidèle, qu'il soit un homme ou une femme, se lie fort avec une autre personne avec qui il a un vrai amour, entre guillemets, tout en se sentant coupable et ambivalent face à sa famille. Dans ces cas, la séparation est souhaitable la plupart du temps. Dans d'autres situations, le conjoint infidèle désire clairement mettre fin à sa relation conjugale sans être capable de le dire. L'infidélité est sa voie de sortie. Il serait déçu d'être pardonné. Mais la plupart du temps, l'infidèle a été volage, inconscient ou assez frustré pour s'aventurer dans l'infidélité sans vouloir rompre sa relation amoureuse pour autant. Bien au contraire, il serait dévasté si ça tournait ainsi. D'habitude, quand il se fait prendre, il désire donc ardemment réparer le désastre émotionnel qu'il a déclenché. Y a-t-il des attitudes gagnantes de la part du conjoint infidèle et repentant qui veut se faire pardonner? Oui. Il y en a trois qui sont d'ailleurs essentielles selon Spring en 1993. Ces attitudes atténuent la réaction d'obsession de la personne trompée tout en accélérant le pardon. Premièrement, le conjoint infidèle doit éprouver une peine authentique d'avoir infligé autant de douleur à l'autre. Il ne faut cependant pas s'attendre à des regrets pour les actes eux-mêmes. L'infidèle s'est souvent fait un cadeau qu'il ne peut pas regretter. Les jouissances que procurent des relations sexuelles avec de nouveaux partenaires compte parmi les plaisirs les plus intenses sur cette planète Terre. Et des débuts amoureux peuvent gaver une personne d'une ivresse incomparable. Il est donc rare que le conjoint infidèle n'ait pas apprécié les moments exquis qu'il s'est payés. Mais ce qui importe le plus pour la personne trompée, c'est de sentir comment l'infidèle réalise maintenant l'impact de son infidélité sur son bien-être à elle. Une épouse trompée disait à son mari en entrevue, ouvrez les guillemets, « Je veux voir le regret dans tes yeux et savoir que tu te sentais coupable au moins quand tu me faisais cela. » Fermez les guillemets. Bien souvent, le mari ne s'est pas payé la traite pour faire du mal à sa conjointe. Et ce mari, justement, expliquait à son épouse qu'il n'avait pas été infidèle contre elle. Cependant, elle se sentait quand même abandonnée sans rien y comprendre et il devait maintenant en prendre pleinement conscience. S'il aime vraiment son amoureuse, le mari infidèle démontrera donc comment il est touché par la souffrance de celle-ci. Mais probablement que le plus important est de se mettre en position d'écoute, c'est-à-dire de démontrer sa bonne volonté à comprendre, même s'il a de la difficulté à y parvenir. Sans cette sympathie et cette recherche d'empathie, il ne pourra pas regagner le cœur de sa conjointe. Elle en conclura qu'il est égocentrique et qu'il ne l'aime pas. Alors, on parle du mari qui a trompé, mais évidemment, tout ça aurait pu être mis au féminin. Un deuxième prérequis au pardon, c'est de tout faire pour rétablir la confiance. À ce stade-ci, les belles paroles ne suffisent pas. L'infidèle a une côte abrupte à remonter et les mesures à prendre peuvent être drastiques. Si l'infidèle est trop mou dans sa façon d'éloigner la maîtresse ou l'amant, les doutes subsistent et contribuent à nourrir la méfiance du conjoint trompé. Une cliente avait trouvé le moyen de lire les courriels de l'ex-maîtresse de son mari que l'ex-maîtresse de son mari lui faisait parvenir. Et comme elle n'avait pas accès aux courriels du mari expédié à la maîtresse, elle en venait à supposer le pire et à en mourir d'inquiétude. Même s'il avait rompu avec sa maîtresse, le mari était incapable de couper complètement et définitivement la communication avec celle-ci. En conséquence, morte d'anxiété, l'épouse accablait son mari de questions régulières et insistantes sur son réengagement amoureux. Médusé, le mari n'y comprenait rien, et l'épouse avait l'air d'une personne qui restait accrochée à la période de l'obsession. On doit donc réagir avec force pour rassurer l'autre. Ainsi, un mari infidèle peut être obligé de congédier sa meilleure employée. Une épouse infidèle peut être obligée de quitter un emploi rémunérateur. Un couple peut être obligé de déménager. On peut être obligé de délaisser un passe-temps. Les actions à prendre sont souvent très dérangeantes, mais c'est le prix à payer pour sécuriser son conjoint ou sa conjointe et faciliter le deuil extra-conjugal. Celui qui s'est permis une liaison s'en est enivré. Durant cette période, le pétillant de sa vie lui a été fourni par cette relation en parallèle qui venait compenser sa morosité quotidienne. Un effet de sevrage peut s'en suivre. Retourner à sa vie normale lui apparaît alors routinier, monotone et peut-être même désolant. Mais, si on suit l'analogie du sevrage d'une drogue, on sait qu'après un certain temps d'abstinence, la joie de vivre refait surface. C'est en s'investissant vraiment avec son conjoint et sa famille, en planifiant des projets stimulants, en réduisant les irritants relationnels et en révisant son style de vie qu'on peut revitaliser sa vie conjugale et familiale. D'après nous, ce qui est le plus sécurisant pour la personne trompée, c'est justement de voir le conjoint infidèle se réinvestir et se rapprocher romantiquement. Enfin, la troisième condition, sine qua non, du pardon, et non la moindre, c'est la ferme intention de découvrir les raisons de l'infidélité. En entrevue avec un couple, nous sommes souvent surpris de voir un homme, par exemple, minimiser cet aspect aux grandes dames de son épouse qui n'en revient pas. Si cet homme-là ne change pas d'attitude à court terme, la dissolution de son mariage l'attend dans le détour. Souvent, les infidèles ne connaissent pas eux-mêmes les véritables raisons de leur infidélité. Dans certains cas, ils n'en ont aucune idée. Un ex-client, par exemple, avait rendu son épouse hystérique quand elle réalisa que son conjoint avait pris l'habitude de rentrer à la maison vers 3 heures du matin après avoir passé tout ce temps dans un cruising bar, alors qu'elle le croyait sur la route du retour après une journée de travail en dehors de la ville. Ce mari restait bouche bée quand on le questionnait sur ses motivations. Aucune idée. Et ce n'était pas de la manipulation, il ne savait vraiment pas pourquoi il avait pris cette habitude. C'est en psychothérapie qu'il a découvert comment ses frustrations conjugales avaient pu l'amener là. D'autres infidèles pensent connaître les raisons de leur infidélité sans réaliser que leurs explications sont en réalité des rationalisations qui cachent des motivations subconscientes. Ainsi, ouvrez les guillemets, « je voulais juste m'amuser un peu », fermez les guillemets, ou encore, ouvrez les guillemets, « tout le monde fait ça, ce n'est pas grave », fermez les guillemets, ou encore, ouvrez les guillemets, « j'avais pris un petit coup », fermez les guillemets, ou « nous ne sommes pas mariés de toute façon », et j'ai été séduit par ma collègue de travail qui est trop entreprenante, ce n'est pas ce que je voulais. Et surtout, ce n'est pas de ma faute si je suis tombé en amour. Tout ça reflète souvent une méconnaissance des motivations réelles. La personne émet des raisons de premier degré qui ne sont que la conséquence des vraies raisons de l'infidélité. On ne se laisse pas séduire par hasard, non plus qu'on tombe en amour par hasard. Néanmoins, la plupart des infidèles sont sur la bonne piste quand on les interroge sur leur motivation, sans être capables toutefois de mener le raisonnement jusqu'au bout. Par exemple, un homme rationalisera son infidélité en accusant le manque de libido de sa conjointe, sans réaliser que ce manque de désir de son amoureuse est directement relié à son manque d'égard pour elle. Et il sera encore moins conscient du fait que ce manque de considération révèle un trouble de personnalité chez lui. Alors voilà pour aujourd'hui, en ce qui concerne ce que j'avais à vous lire sur l'infidélité, sur la façon d'y réagir. Lors du prochain épisode, le titre sera celui-ci, « La gentillesse sexuelle dans le couple ». Alors donc, c'était Psycho Balado avec Yves Delpé, psychologue. Vous pouvez avoir plus de détails sur ce que je suis et sur les services que je rends, ainsi que sur mes livres, en allant sur mon site web www.dalpecote.com. Alors voilà, je souhaite un bon 2 semaines à tous mes auditeurs. Au plaisir! Thank you.